Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Le livre de Fatima Daas, je l'ai lu d'une traite lors d'un trajet en train. Comme elle, je suis la Mazozia, la petite dernière de ma famille, et c'est ce qui a tout de suite suscité ma curiosité. La petite dernière, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vient d'une famille musulmane originaire d'Algérie. Fatima Daas y parle de sujets puissants et universels avec beaucoup de force et de sensibilité. Ses pages parlent d'adolescence, de cas d'identité, d'amour et de tendresse, de sexualité, de famille, d'amitié, de langue, de religion. Ses mots résonnent, c'est une poésie. Un texte rythmé, musical, percutant. À chaque début de chapitre, elle scande. Je m'appelle Fatima. Je m'appelle Fatima Daas. Comme un cri du cœur, un appel d'urgence. Il était important pour moi de finir cette saison avec elle car son œuvre résume les raisons qui me poussent à faire ce podcast. Scander la possibilité d'être toutes ces choses à la fois et de prendre sa place. Le droit d'être complexe. Fatima Daas, j'ai l'impression qu'on réduit souvent ton livre à celui d'une femme musulmane homosexuelle qui vient de banlieue. Mais ton livre ne parle pas seulement de ça. Comment tu le décrirais avec plus de justesse ?
Merci. Merci pour cette remarque question. Moi, je dirais que c'est un roman qui parle de la construction d'une jeune femme qui est la petite dernière de sa famille, qui est la seule à être née en France dans sa famille et qui est d'origine algérienne, qui cherche un peu sa place à l'intérieur de cette famille. Qui cherche en fait à créer du lien à chaque fois. Qui cherche à créer du lien avec sa famille, avec sa mère, avec ses sœurs, avec les autres de manière plus générale. Qui cherche un peu quelle place elle peut avoir un peu partout. Donc à l'école, dans sa famille, dans sa grande famille en Algérie, en France, avec ses amis, avec ses amantes. Ouais, c'est un personnage qui cherche sa place. Pour moi, c'est ça. Et ça traverse du coup plusieurs identités. C'est un personnage qui cherche à dire je suis, j'aime, je suis en train d'être. En fait, pour moi, c'est vraiment un roman sur l'adolescence, sur le fait d'avoir l'impression d'être à côté des autres et à côté de sa vie aussi. Et l'ASM, dans mon roman, ça a une place hyper importante aussi. Pour moi, l'ASM, c'est un personnage. Autant que Clichy-sous-Bois, le décor, c'est un personnage. Et parce que je crois qu'en créant ce personnage asthmatique, j'ai réussi à me dire « Ok, je parle d'un personnage qui étouffe. Pourquoi ce personnage étouffe ? Pourquoi ce personnage ne respire pas comme les autres ?» Donc il y avait déjà cette distinction-là. Et donc ça m'a permis vraiment d'aller un peu partout, quoi. De pas rester justement dans ce truc de « elle est lesbienne et homosexuelle, ok, on sait, on a compris, mais pas que. Elle est aussi plein d'autres choses. »
Et à ton avis, pourquoi on essentialise tant ton livre ? Pourquoi on le réduit, même si c'est des sujets très importants à aborder, évidemment l'homosexualité et la religion, mais pourquoi on réduit souvent ton œuvre à ça ?
Parce que l'islam, ça remue tellement les gens aujourd'hui qu'en fait, dès que ça parle d'islam, on en fait une fixette. Sauf qu'en fait, j'étais pas tout à fait à la bonne place, encore une fois, en publiant ce roman. C'est-à-dire que si tu pars avec des préjugés, si tu pars avec un tas de préjugés avant de lire mon roman, bah, tu vas continuer à avoir des préjugés, en fait. Parce que tu vas penser que ce roman est dans la détestation de la famille, dans le rejet de la famille, dans le rejet de l'islam. Mais en fait, si tu pars avec juste l'idée de lire quelque chose et d'avoir accès à quelque chose, en fait, d'avoir accès à une histoire, bah, tu peux te dire, en fait, « Ah, c'est plus complexe. » Ah, c'est plus nuancé que ça. Ok, le père, il est violent, mais c'est plus nuancé que ça, en fait. Voilà, je pense que dès qu'il y a islam, c'est le gros buzz. Islam et homosexualité, ça n'existait pas, en fait. Je pense que dans l'imaginaire universel, il y avait un truc de « les lesbiennes ne sont pas musulmanes ».
Et c'est surtout homosexuelle, musulmane et en paix aussi, qui n'existe pas, j'ai l'impression. C'est surtout ça, parce qu'on imagine tout de suite le conflit, le fait de se détester ou d'être détesté par les autres, mais j'ai pas l'impression que c'est ce que tu décris et ce que tu vis toi personnellement.
Ouais, merci beaucoup pour cette remarque, parce qu'en fait, moi je me suis fait vraiment... Dès le début, en fait, c'était tout le temps « Oh là là, mais c'est terrible ce personnage... » Enfin, c'était pas ce personnage, vous, en fait. J'avais plus le droit de parler de littérature, j'avais plus le droit de parler d'écriture, j'étais moi, exposée moi en tant que personne, alors que j'ai pas écrit ma life, en fait. Et donc, on était tout le temps en train de me dire « ça doit être difficile pour vous. » Peut-être qu'en fait, la solution, ce serait juste de se dire « mais en fait, vous n'êtes pas musulmane et c'est pas grave, et aimez-vous, et aimez les femmes, et c'est super. » Et en fait, à chaque fois, on essayait de me dire « mais on va te sauver. » Ça se voit que ça va pas, en fait, tu en souffres. Et moi, j'ai pas l'impression d'avoir parlé, en fait, finalement, de contradiction. C'est-à-dire que si j'ai déjà dit ça pendant ma promo, c'est que j'ai l'impression qu'on m'a poussé à parler de contradictions. En fait, moi, je me rends compte qu'à la fin, ce ne sont plus des contradictions. S'il y a contradiction, c'est de par la société, en fait. Elle souffre pas dans son coin parce qu'elle, elle trouve pas ça cool d'être lesbienne et musulmane, en fait. La nuance, elle est dans les relations amoureuses, en fait. Elle est dans la description des relations avec les femmes et elle est dans cette intimité-là. Et donc, je pense avoir écrit quelque chose qui, justement, vient contre l'idée de juste « ça fait souffrir ». Bien sûr que ça fait souffrir parce qu'en fait, tu vis dans le silence. Et il n'était pas question pour moi de dire « mais c'est super d'être lesbienne et on est hyper happy », tu vois. Genre non, en fait, on en a souffert. Enfin, j'en ai souffert. Pour le coup, je. Et donc, mon personnage, pour moi, c'était important de revenir sur le parcours. Mais c'était aussi important pour moi de dire « ok, en fait, elle a toute une autre vie aussi à côté. Elle a une double vie. Elle a ce truc-là aussi de ne pas avoir sa place dans ses relations, de ne pas savoir ce qu'elle veut, de, voilà, le polyamour. » Et en fait, je me dis « mais en fait, ça, tout ça, elles ne l'ont pas lu, en fait. » Genre, en fait, comment vous pouvez penser que c'est quelqu'un qui ne s'autorise pas et qui en souffre et qui est dans son lit en train de pleurer, alors que je parle de meuf, quoi. Genre, je parle de soirée, je parle de meuf, genre de trucs vivants, de trucs qui bougent. Et j'étais choquée, quoi, en fait.
Quand j'ai lu ton livre, j'ai pas eu l'impression que tu parlais de contradiction, mais plus de complexité, que tu nous autorisais enfin à la complexité, justement, parce qu'on a, du coup, comme tu disais, tendance à dire, bon, bah, si elle est homosexuelle, elle est pas musulmane, si elle est musulmane, elle est pas homosexuelle. Mais là, tu te dis juste, oui, je suis ça, ça, et puis d'autres choses. Est-ce que t'as l'impression que les femmes d'origine nord-africaine n'ont pas le droit à cette complexité-là ?
Bah, clairement, moi, on m'a dit, t'as pas le droit. Et en fait, je pense qu'on est dans un truc, on est dans un pays où c'est tellement normé. On n'a vraiment pas le droit ni à la complexité, ni à la nuance. On a le droit juste à oui ou non, ça ou ça. On n'a pas le choix entre un mélange, en fait. Tu dois choisir, tu dois choisir d'être une femme, un homme, tu dois choisir d'être lesbienne ou hétéro. Tu dois... Et du coup, entre tout ça, on ne laisse pas de place au mouvement. Et moi, je tiens beaucoup au mouvement. Et en fait, il y a un truc, c'est hyper réducteur. Je pense qu'on nous l'enlève, on l'autorise pour d'autres personnes. J'ai l'impression qu'on doit toujours s'expliquer. Moi, je dois toujours expliquer que non, en fait, j'ai choisi d'être musulmane. En fait, il n'y a personne qui est en train de me trancher la gorge si je ne suis pas musulmane. Et donc, c'est terrible, en fait, de devoir tout le temps expliquer aux gens, en fait, non, c'est mon choix. C'est mon choix et je ne veux pas. J'ai la foi, en fait. Je fais quoi, moi, de ma foi? Je la jette à la poubelle? Mais on ne peut pas, en fait. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais comment? Tu peux pas cesser d'aimer la personne du jour au lendemain. Et c'est pareil pour ça, en fait. Et du coup, il y a ce truc aussi hyper anti-religieux, anti-religion, sans prendre en compte la complexité des parcours des gens, en fait. Donc nous, on veut pas tout jeter à la poubelle, en fait. On veut juste vous dire, en fait, c'est pas grave. Ok, on a compris. La société nous dit que c'est pas possible, mais nous, on va vous dire que c'est possible. De par nos existences, en fait. Genre, tu peux pas contester l'existence de quelqu'un. Et moi, ça me rend ouf.
Je suis très touchée de voir des discours comme le tien devenir public, surtout en France. Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu as trouvé des gens qui te ressemblaient autour de toi ?
J'avais toujours l'impression de trouver des personnes qui pouvaient me ressembler à certains endroits. Mais j'ai jamais trouvé quelqu'un où il y avait plusieurs choses en même temps. Mais je pense que c'est aussi ça dans ce roman. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc de... La place, c'est... Tu peux être bien quelque part. Tu vois, moi, je me sens très, très bien à Clichy-sous-Bois, par exemple, contrairement à ce qu'on peut me dire. On m'a souvent demandé, quand tu vas à Clichy-sous-Bois, ça va, les gens, ils te courent pas après. Non, mais vraiment, en fait, c'est hyper inquiétant. Aujourd'hui, on est encore en train de te demander ça. Et en fait, à Clichy-sous-Bois, tout le monde s'en fout, en fait, de ma vie, avec qui je couche ou pas, en fait. Et donc, on ne me pose aucune question. Les gens, ils ont juste leur pudeur, ils sont en mode, mais on s'en fout, on ne veut pas savoir. Donc, ils sont hyper OK, ils sont en mode, mais super pour ton livre, bravo, beau gosse, tu vois. Ils ne sont pas du tout en mode... Et donc, moi, ça m'inquiète vraiment. Tu peux te sentir bien dans un endroit, mais tu as l'impression qu'il te manque des trucs, tu vois. Moi, ce qui m'a manqué, c'est vraiment de me dire... Bah, ce truc-là, plus grand, quoi, tu vois, plus complexe, plus OK, t'as des bonnes notes, mais bon, en fait, genre, le système scolaire, t'as envie de le jeter à la poubelle, très clairement. T'es une meuf, mais bon, tu rentres pas dans les codes de meuf, de féminité, de trucs, tu dois dealer avec ça, ensuite t'es lesbienne, t'es aussi musulmane, Mais en fait, tu dois faire comprendre aux gens que si t'es lesbienne et musulmane, c'est pas que tu rejettes la religion aussi. Il y a ça aussi dans l'autre sens, hein, parce que... Mais j'en ai moins souffert. On essaie tout le temps de te faire dire des choses, donc que ça se passe mal en banlieue, qu'on va te courir après. Et en fait, la vérité, c'est que moi, quand on me juge, c'est pas dans ces endroits-là. Moi, quand on me juge, c'est avec des personnes qui sont intello. On s'attend pas à ce que ces personnes-là le fassent. Je pense qu'il faut commencer à se regarder faire.
Et ton livre, il s'adresse à ces personnes-là ? Il s'adresse à qui, ce livre ?
Moi, mon livre, il s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de le lire. Toutes les personnes qui peuvent se reconnaître dans n'importe quoi. Que ce soit dans un mot, que ce soit dans une définition, que ce soit juste dans la musicalité, avec la langue arabe, que... n'importe quoi, en fait. Genre, et je pense que c'est possible. Si t'arrives en te disant, bah, je prends le livre et je le lis, sans chercher la petite bête, j'ai envie de dire presque, tu peux te retrouver, je pense vraiment. Vraiment, sans aucune prétention, je pense que tu peux te retrouver.
Moi, je veux te remercier parce que tu montres qu'on peut vivre en paix avec cette complexité. Je sais qu'on t'a souvent dit que t'étais courageuse parce que tu disais publiquement que t'étais homosexuelle et musulmane. Mais moi, ce courage que je ressens en toi, c'est pas d'être homosexuelle, c'est pas d'être musulmane, c'est juste de dire « Ok, je suis différente et je suis tout ça à la fois ». Et est-ce que ça a toujours été aussi évident pour toi ? Parce que moi, si je fais ce podcast, c'est aussi pour trouver la paix, c'est un peu ma thérapie. Comment ça s'est passé dans ton apprentissage, dans ton adolescence, dans ta vie de jeune adulte ?
Ça n'a pas du tout été évident pendant une longue période, je pense vraiment, de l'enfance à mes 18 ans, c'était horrible. Moi, j'ai su très tôt que j'étais pas comme les autres, entre guillemets. En tout cas, voilà, tu te parlais de personnes qui nous ressemblent ou avec qui ça peut faire lien. Bah, moi, j'ai eu très peu ça. J'ai tout le temps eu l'impression d'être à côté. Et du coup, ça a été très difficile. Et je pense qu'il m'a libérée, c'est vraiment de comprendre que je pouvais pas changer. De comprendre que je pouvais pas être autre que lesbienne, que musulmane, que ci ou que ça. Et je pense que la honte, finalement, tu vois, transforme... que la honte se transforme au bout d'un moment. Tout ce qui me faisait très honte, aujourd'hui, j'en suis fière et j'en parle. Moi, j'ai eu très honte pendant longtemps d'être issue de l'immigration. Je me rappelle qu'en primaire, je disais pas que chez moi, on parlait arabe. Parce que dans mon école, c'était un cliché, hein, mais dans mon école, c'était plutôt côté zone pavillonnaire. Voilà, j'avais l'impression que si je disais qu'on parlait arabe chez moi, on allait plus remarquer mes fautes de français, par exemple. Et bien sûr que j'en faisais, et j'en fais toujours, et je suis très contente de faire des fautes de français. Et du coup, ça marque, en fait, parce que tous ces trucs où t'as honte, quand ils sont transformés, c'est ça la force, en fait. Et peut-être c'est ça aussi le truc du courage. Le courage, c'est peut-être ça. C'est de réussir à transformer la honte en fierté, en amour. Et ça a été le cas, voilà, pour le fait d'être algérienne, pour le fait d'être musulmane, et pour le fait d'être lesbienne. Tu vois, de comprendre que c'était comme ça, et que c'était OK, et que c'était pas grave. Et que j'étais contente de me dire, mais en fait, ça y est, tu vas plus avoir l'idée d'essayer de te mettre avec un mec pour te forcer à. J'ai arrêté de me dire, il faut que tu parles bien français. Ça a été hyper libérateur. Et quand j'ai essayé de me dire, mais en fait, c'est bon, c'est pas grave, c'est pas genre la meuf qu'il faut être ou je sais pas quoi, ça m'a libérée de tout, en fait. Tout est venu en même temps. Et c'est pour ça que c'est ça, ce roman. C'est que, ouais, c'est une explosion de partout, quoi. Ça permet vraiment de se dire, c'est pas facile. Hein. Ça veut pas dire que, genre, t'es tout le temps hyper heureux de tout ce que t'as fait. Mais en tout cas, je me sens hyper libérée. Et c'est pas la France, la République qui m'a libérée, et c'est pas à la France que je dis merci. Donc je suis très heureuse de pouvoir le dire publiquement, ça, tu vois. Et à plusieurs reprises.
Et qu'est-ce que tu dirais à celles et ceux qui n'ont pas encore trouvé la paix ?
Moi, je leur dirais qu'il faut beaucoup de temps, et que ça vient très progressivement. Que c'est pas quelque chose... ça vient pas quand on l'attend, comme l'amour, quoi. Ça vient à un moment où on s'y attend pas forcément. Et pas forcément quand on fait le plus d'efforts. Pas forcément quand on se bat le plus pour trouver cette paix-là. Et je pense que ça vient aussi avec les gens, ça vient avec le contact avec les autres, les rencontres, avec les possibilités, avec ce qu'on peut lire. Et c'est pour ça que pour moi, écrire, c'est important. C'est que je me dis, c'est le plus beau cadeau qu'on m'a donné, c'est une personne qui m'a dit, mais en fait, j'ai offert ton roman à ma mère, et ça a rétabli le dialogue. Ouais, la paix, on la trouve de manière différente. Et je pense, lire des trucs qui nous marquent, qui nous touchent, qui nous parlent, on l'a tellement pas eu que quand on le trouve... il faut l'offrir, il faut le partager, il faut le diffuser.
Merci Fatima Das de célébrer nos identités plurielles.
Merci à toi.
Cet épisode a été enregistré au MUCEM à Marseille lors de l'événement Parole d'YZ. À la rentrée sortira une série en partenariat avec le musée, où la parole de jeunes personnes engagées sera mise en valeur. Merci à Fatima Das pour sa confiance et pour la force qu'elle donne. C'est le dernier épisode de cette saison. Je voudrais vous remercier, auditeurs et auditrices, pour tout le soutien que vous m'avez donné pendant cette année qui a été particulièrement déchirante pour moi. J'ai hâte de vous retrouver à la rentrée. D'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter les épisodes de Nahnah sur toutes les plateformes d'écoute et me suivre sur les réseaux sociaux à Nahnah Podcast, N-A-3-N-A-3 Podcast. Passez un merveilleux été, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, célébrez nos identités plurielles.